Il y a une paracha dans Parchat Emor, qui s'appelle Parchat Amoadim. C'est la paracha des fêtes, c'est dans Emor, donc Parchat Emor. Et ça commence, bien que ce soit une paracha des Moadim, ça commence néanmoins par Shabbat. Donc on va expliquer, mais on ne va pas le faire aujourd'hui. Pourquoi, puisqu'on parle des Moadim, on commence par Shabbat. Shabbat, c'est pas un Moed. Un Moed, c'est les fêtes qui sont liées au calendrier, et pas celle, pas que Shabbat qui revient tous les 7 jours, et qui n'est pas lié du tout au calendrier. Alors il y a Pessah, et après il y a la mitzvah de Omer, la mitzvah du Omer, le Korban Omer, c'est-à-dire le lendemain du Korban Pessah, donc ce qui chez nous est le deuxième jour de Pessah, le soir du deuxième céder pour nous, on allait couper de l'orge, qui est la première céréale mûre à ce moment-là, et on apportait un corban, c'est-à-dire on allait balancer cette orge, plus d'autres choses, devant le misbéar, et aussi ce moment où on apporte le corban Omer, c'est le matir de la nouvelle récolte. Ça permet de manger les nouvelles céréales dans la maison de monsieur et madame tout le monde. Par contre, ça ne le permet pas encore d'utiliser la nouvelle farine, les nouvelles céréales, pour apporter des mnachot au Beit HaMikdash. Au Beit HaMikdash, le matir, ce qui va permettre de prendre la nouvelle récolte, ce sera le korban de Shavuot. Comme vous savez, le korban de Shavuot, c'est les fameux deux pains qui sont en blé, par opposition au homer qui est en orge, et qui sont tout à fait exceptionnellement, c'est du chametz. Il n'y a pas de korban sibour, il n'y a jamais de korban sibour avec du chametz. En général, il n'y a pas de chametz dans le Beit HaMikdash, sauf dans un korban qui s'appelle korban toda, où il y a des chalot qui sont certaines matzot et certaines chametz. Mais ça, c'est l'exception. Sauf le jour de Shavuot. Alors, on dit que si on considère le chametz comme étant lié au Yetzirah, alors le jour où on reçoit la Torah, on peut se permettre de dealer avec le Yetzirah. C'est pour ça que ce jour-là, on a un korban qui est chametz. Autrement, c'est jamais. Et puis à partir de ce korban qu'on a apporté, donc le deuxième jour de la fête de Pessah, à partir de ce jour-là, on a compté 7 fois 7 jours, donc 7 semaines. Après, c'est compté, on dit 50 jours. Et ce 50e jour, dans le texte, c'est très curieux ce qui est écrit dans le texte. C'est écrit, à ce moment-là, vous apporterez une mincha chadasha. Et le mot Shavuot n'est pas prononcé, ni le mot atzeret, qui est le mot qui veut dire Shavuot dans le langage des chachamim. Aucun, il n'y a rien marqué. C'est marqué que, bon, on ne fera pas de melachot, pas de travaux, un jour de Yom Tov, quoi. Et on amènera au Beit HaMikdash, on amènera donc ces jeté alechem, les deux pains, avec plein de korbanot aussi, beaucoup de viande aussi. Et voilà, c'est fini. Parce que ce qui va venir après, la Torah, elle va passer au septième mois, c'est-à-dire à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est le septième mois, si on commence à Nissan. Et donc, voilà, on parle de Rosh Hashanah. Donc, on n'a rien dit sur Shavuot. Donc, quand je dis qu'on n'a rien dit, bon, alors, il y a d'abord ce Korban, mais ça veut dire que, comme c'était au Beit HaMikdash, quasiment, pour monsieur et madame tout le monde, il n'y avait rien, sauf que c'était Yom Tov, c'est tout. C'était comme un espèce de Shabbat, un Yom Tov, mais qui n'avait pas beaucoup de personnalité, on ne dit rien. Alors on dit que ces jetés alechem, ils sont aussi bikurim. C'est aussi les premiers, comme c'est les premières pas tout à fait, mais c'est comme les premières récoltes de blé. Mais en fait, si on y regarde d'un peu plus près, ça vaut peut-être la peine que vous regardiez. Regardez, c'est quoi, c'est le chapitre 23 ou 20, je ne sais pas combien, dans Vayikra. Hein? 23, vous avez un pasouk, je sais pas, autour du pasouk 20 ou 22 ou 23, je sais pas. Juste, regardez là-dedans, vous allez voir, juste après, ou si vous voulez, juste avant Rosh Hashanah, avant qu'on parle de Rosh Hashanah, il y a un verset qui dit « Ubekutzrechem » et lorsque vous allez moissonner, vous l'avez ? Lorsque vous allez moissonner,
c'est le 22.
Voilà, verset 22, lorsque vous allez moissonner, vous ne moissonnerez pas les coins de vos champs. Vous allez laisser ça aux pauvres et aux étrangers qui, eux, n'ont pas de terre. On peut évidemment se demander ce que fait ce verset-là au milieu des fêtes. On aurait mis ce verset-là dans Parshat Behar avec la Shemitah et le Yovel, on aurait bien compris. Ou bien quand on parle de Trouma ou de Maaser, etc. Mais qu'est-ce que ça fait là au milieu de la fête? Alors évidemment, quand on parle de moissonner, ça peut pas vouloir... Ça ne parle pas du jour de Shavuot, on n'a pas le droit de moissonner à Shavuot. Donc ça parle d'après Shavuot. D'accord ? Ça parle d'après. Le reste du temps. Et qu'est-ce qu'on te dit ? Eh bien, tu peux pas, tu dois faire attention de ne pas... n'oublie pas de laisser les coins de ton champ pour les pauvres. Quand on entend la mitzvah de Péa, ça s'appelle Péa, les coins du champ, c'est comme les péotes, c'est les coins. Ça va traditionnellement avec la glane aussi, où on laisse aussi. Alors il y a une mitzvah qui consiste à... La glane, ça veut dire que tu n'as pas le droit, s'il y a des épis qui tombent, quand tu récoltes, quand tu mets tes gerbes... Tu mets en gerbe, ça, il y a des épis qui tombent, tu n'as pas le droit de les ramasser, tu dois laisser ça pour les glaneurs. Et quand les gens, ils vont mettre le blé
en
gerbe, et puis après, tu vas passer avec ton chariot, tu vas ramasser les gerbes. Mais si tu as tout à coup oublié une gerbe en passant, tu ne peux pas revenir en arrière pour la prendre, tu dois la laisser, ça s'appelle leket. Shikra et Péa. Il y a Péa, est-ce que tu as oublié, dans des épis, est-ce que tu as oublié au niveau des gerbes. Ça, c'est pour laisser ça pour les pauvres. En gros. Donc, ça, ce qui est intéressant, ce qui est le plus spectaculaire, si vous voulez, c'est Péa. Parce qu'il y a vraiment... Voilà, j'ai travaillé... J'ai ensemencé, j'ai travaillé mon champ toute l'année, d'accord ? Et voilà que quand je veux récolter, eh bien la Torah elle te dit oui, tu peux prendre, mais tu récoltes, mais les coins du champ tu les laisses. Combien c'est le coin du champ, etc. On ne va pas entrer là dans les détails pour l'instant. Ok. Alors regardez ce que dit Rashi sur ce verset. Rashi dit quelque chose d'assez énorme. Il cite un Torah de Kohanim. Torah de Kohanim, c'est le Midrash Halakha sur le Sefer Vayikra. Et Rashi dit, vous avez le Rashi? Pardon? Si tu lis plus fort, je te dirai si c'est ça. Oui, bon, ça c'est, on va répéter. Pourquoi, qu'est-ce qu'on doit transgresser le cas échéant? Mais qu'est-ce que c'est ce... Rashi dit, qu'est-ce que c'est cette mitzvah de Péa?
Oui.
Voilà. Ça, c'est énorme. D'accord? Rashi ramène, c'est le Torah de Kohanim, qui dit que ce verset-là, il vient te dire que si tu donnes Leke chikra opea, ça veut dire tu te donnes les coins du champ et la glane et les, je sais pas comment on dit sur l'oubli des gerbes. Eh bien, la Akadosh Baruch Hu va considérer que c'est comme si tu avais, excusez du peu, construit le Beth Amikdash et que tu aies apporté les korbanot au Beth Amikdash. C'est énorme, absolument énorme. Et on ne voit pas très bien pourquoi. C'est quoi ça? Pourquoi c'est... On comprend très bien que si c'est comme ça, alors c'est tellement énorme qu'on peut comprendre que ça ait sa place parmi les fêtes, en fait. C'est ça, Shavuot, quoi. Shavuot, c'est le déclenchement de cela. En fait, on a déjà vu quelque chose de ce genre-là. Bon, certains l'ont déjà entendu. Si vous prenez le troisième paragraphe du Shema, dans lequel il est dit que, bon, si vous souvenez des tzitzit avec le fil de trélette, et vous allez vous rappeler les mitzvot d'Hachem, c'est marqué « Va'asitem otam ». Vous rappelez des mitzvot et vous allez les faire, les pratiquer. Très bien. Là aussi, il y a une dracha. La dracha, là-bas, elle est construite sur le fait que quand on écrit va'asitem otam, otam, ça s'écrit aleph, vav, tav, mem. Aleph, vav, tav, mem. Et si vous regardez dans le troisième paragraphe du Shema, justement, là-bas, vous verrez que le Otam n'est pas écrit avec Vav. Il est écrit, ça s'appelle Chaser, il est écrit sans le Vav. Donc ça se lit quand même Otam, mais ça s'écrit de telle sorte qu'on puisse le lire aussi, et ce serait la première lecture, si vous avez Aleph, Tav, Mem, vous allez lire ça à Tem. Pas Otam, mais à Tem. C'est-à-dire vous. Et donc le verset, si je le lis comme ça, il dit, vous allez vous souvenir des mitzvot, va'asitem atem. Ça veut dire, vous allez les faire. Alors c'est marqué dans la drasha, là-dessus, c'est marqué que Akadosh Baruch Hu dit, si vous faites les mitzvot, alors je considérerai que c'est comme si vous aviez inventé les mitzvot. Alors, je vous explique un peu pourquoi c'est important. Imaginez-vous, vous avez un cadeau à faire. Vous avez un cadeau à faire à votre épouse. Ça peut se présenter de plusieurs manières. Elle peut par exemple vous avoir dit ce qu'elle voudrait recevoir comme cadeau. Alors, si vous allez, vous lui offrez ce cadeau qu'elle vous a soufflé, que c'était ça qu'elle voulait recevoir, c'est très bien, elle sera contente, elle va vous remercier, super. Est-ce qu'on aurait pu imaginer mieux que cela? Imaginer mieux, c'est que vous ayez deviné, sans qu'elle vous le souffle, ce qu'elle voulait recevoir. À ce moment-là, vous montez en grade, là. La vie, c'est le risque, toujours. Et donc, vous avez trouvé, etc. Les mitzvot, elles construisent le monde. Akadosh Baruch Hu a créé un monde imparfait. C'est ça qu'il faut savoir. Hachem n'a pas créé un monde parfait. Le monde est créé imparfait. Et il a créé les hommes, et puis les hommes ne l'ayant pas fait, c'est arrivé jusqu'aux Juifs. Il a créé les Bnei Israël, pour parfaire le monde. Et il nous a soufflé. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour parfaire le monde? Voilà, faites les mitzvot. Mais Hachem dit, si vous faites vraiment les mitzvot, moi je ferai comme, je considérerai que c'est comme si vous les aviez inventés. Ça veut dire comme si vous aviez trouvé par vous-même ce qu'il fallait faire pour parfaire le monde. C'est énorme. On va essayer de voir. Après, je vais essayer de vous expliquer pourquoi Hachem fait ça. Mais la Drasha, elle va un peu plus loin. La Drasha, elle dit, si vous dites comme ça, Va'asitem Atem, si je prends ce morceau-là, Va'asitem Atem, on peut aussi le lire, vous, vous faites vous-même. Asitem Atem, vous faites vous-même. C'est-à-dire, vous, vous êtes fait vous-même. Parce que c'est vrai que Akadosh Baruch Hu va valider les mitzvot qu'on a faites comme si on les avait inventées. Mais finalement, pour faire les mitzvot, j'ai besoin de la vie qu'Hachem me donne à chaque instant. Donc, quelque part, je ne suis pas vraiment autonome quand je n'ai pas fait moi-même les mitzvot. Parce que c'est vrai que je les ai inventées, mais je n'ai pas pu les faire si Hachem ne m'a pas donné avant qu'Hachem me donne la vie pour pouvoir faire ces gestes, ces paroles qu'il faut faire pour construire ce monde. Alors Hachem dit, non seulement je considérerai que c'est comme si vous aviez inventé les mitzvot, mais je considérerai aussi que c'est comme si vous vous étiez fait vous-même. Vous vous êtes fait vous-même, vous avez inventé les mitzvot. Alors, si on regarde, il y a un monde qui est imparfait. Et les Bnei Israël font les mitzvot, et ils arrivent à parfaire le monde. Donc ce monde parfait maintenant, il a deux auteurs, deux co-auteurs. Il y a Hachem, qui a créé le monde, mais imparfait, et il y a les Bnei Israël, qui l'ont parfait. Et si on considère que les Bnei Israël, comme Hachem le dit, je considère que les Bnei Israël se sont faits eux-mêmes, et qu'ils ont inventé les mitzvot, ils sont vraiment partenaires d'Hachem. Donc si vous voulez, c'est ça l'idée, c'est qu'Hachem a créé un monde de telle sorte que les hommes puissent devenir vraiment ses partenaires. Et c'est ce qui se passe là, on est partenaires d'Hachem. Alors, dans l'histoire de l'Eketchikra Epea, dans l'histoire des coins, là, de la Glane, etc., ça ne va pas aussi loin. Mais c'est assez énorme, parce que, si vous voulez, nous on a des mitzvot qui, dans lesquelles on nous dit, tu vas apporter les korbanotes. D'accord ? Mais on ne nous donne aucune mitzvah dans laquelle on te dit, pour accomplir, tu veux apporter les korbanotes, oui, mais il faut d'abord que tu construises le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, on l'a trouvé, enfin on l'a, c'est une donnée. Il y a bien David Ameler qui en a eu l'idée, Shlomo Ameler qui l'a construit, ou le Mishkan, Hachem l'a donné les ordres, et Betzalel et Moshe Rabbeinu qui ont construit le Mishkan. Mais donc ça veut dire pour Monsieur Tout le Monde par la suite, quand on apporte des korbanotes, on apporte seulement le korban. En d'autres termes, j'apporte le korban, mais le korban, pour pouvoir être apporté, il y a les conditions, il faut qu'il y ait un misbéach, il faut qu'il y ait un environnement. Et cet environnement, c'est pas, il ne m'incombe pas de le fabriquer, cet environnement. L'environnement, il est donné. On me demande seulement de faire les korbanot. Et là, ici, on nous dit que cette mitzvah-là, enfin, ces trois mitzvot, si tu les fais, non seulement, je considérerai, il faut la voir, que c'est comme si tu avais apporté les korbanotes, mais c'est comme si tu avais bien fait beaucoup plus que ça. Tu as construit le Beth Amikdash qui permet d'apporter les korbanotes. Dans les korbanotes, il y a quelque chose de très surprenant. Il y a un korban qui s'appelle korban tamid. C'est un korban qu'on amène. Tamid, ça veut dire tout le temps, permanent. Mais permanent, ça veut dire ici en l'occurrence, c'est un korban dont on apporte la première partie le matin et la deuxième partie l'après-midi. On apporte, c'est des holocaustes qu'on amène, des agneaux qu'on amène en holocauste, ou cabris qu'on amène en holocauste. Le corps, ça veut dire qu'ils sont entièrement consumés. Celui du matin, c'est celui avec lequel on ouvre les portes du Beth Amigdash. Le Beth Amigdash, il est fermé la nuit. Donc, à l'ouverture des portes, le premier korban qu'on amène, c'est celui-là, qui s'appelle Tamid. Et à la fermeture des portes, le dernier qu'on amène, c'est l'autre partie, la deuxième partie, Ben Arbaïm, dans l'après-midi, la Mincha. Si vous regardez où est écrit ce verset, où est écrit la mitzvah d'apporter le korban tamid. Fondamental, c'est le korban avec lequel il encadre tous les korbanot, quelque part. Tous les korbanot sont portés par ce korban-là. Alors, c'est marqué la chose suivante. Quand Moshe Rabbeinu a compris qu'il n'entrerait pas en Eretz Israël, que finalement c'était décidé, c'était fini, c'est raté, il n'entrera pas. Alors, il fait une tfila pour Hachem, une prière, et il dit à Hachem, il faut que tu donnes au Bnei Israël un homme qui marche devant eux, qui les guide, qui s'occupe d'eux, etc. Donc il fait des recommandations à Hachem pour qu'Hachem s'occupe des Bnei Israël, en quelque sorte. Voilà, moi je suis plus là maintenant, je ne serai plus là, il faut que tu désignes et que tu aides mon successeur. Et alors c'est marqué dans Chazal qu'Hachem dit à Moshe Rabbeinu, il lui dit, au lieu de me donner des conseils sur la façon dont je dois m'occuper de mes créatures, tu ferais mieux de donner à mes créatures des conseils sur comment s'occuper de moi. Et le paragraphe qui vient tout de suite après, c'est Vaïdaber Hashem el Moshe el Emor, Tzaves Bene Israël, Verantal Hem, et Korbani Lachmi, mon korban, mon pain, vous me l'amènerez tous les jours. Et c'est là le korban, le tamid. Donc le tamid, il est présenté comme étant le pain d'Hachem, où Hachem dit à Moshe, dis au Bnei Israël de bien me... J'ai besoin de mon petit déjeuner et du 4 heures, là. Il faut absolument qu'il s'occupe de moi. Bien entendu, Hachem n'a besoin de rien du tout. D'accord? Et quand il dit c'est mon pain, c'est pas qu'il a besoin de nourriture. C'est pour expliquer l'importance de ce korban, comme le pain pour le monde, dans le monde. Ce mot lachmi, lechem, c'est un mot où on peut faire tourner les lettres. Si vous, comment vous les, dans quel ordre vous les mettez, ça fait chalom. D'accord? Ça fait lochem. Ça veut dire, c'est à la fois un guerrier, c'est aussi un rêve. Et ça, c'est très riche, le mot lechem. C'est le pain, comme nourriture fondamentale. Donc, les korbanot sont présentés d'une certaine manière comme une forme de nourriture d'Hachem. Pas qu'il en ait besoin, mais c'est néanmoins présenté comme ça. Et là, on nous dit que si tu as le souci, quand tu moissonnes, de t'assurer que le pauvre et l'étranger ont à manger, alors moi je considérerais que c'est comme si tu avais apporté les corbanotes, c'est-à-dire comme si tu m'avais nourri moi, Hachem, et non seulement tu m'as nourri, mais tu as aussi construit ma résidence. Le Beth Amigdash, c'est la résidence d'Hachem. Donc ça veut dire le souci de l'autre, de l'autre, l'étranger, le pauvre. Akadosh Baruch Hu le valide à un niveau tel que c'est comme si on s'occupait d'Hachem, non seulement en le nourrissant, mais en l'hébergeant en quelque sorte, en fabriquant sa résidence. Donc, quelque part, ça va de nouveau dans le sens où Hachem dit, où Hachem met l'homme d'une certaine manière comme son égal en quelque sorte, comme quelqu'un, je m'occupe de toi et toi tu t'occupes de moi. Bon, c'est les Hachem et les Bnei Israël construisent le monde, et puis Hachem s'occupe des Bnei Israël et les Bnei Israël s'occupent d'Hachem. Toujours cette idée de monter le clan d'Israël jusqu'à ce qu'il puisse être un espèce de partenaire d'Hachem. C'est ce qu'Hachem veut. Hachem veut que nous devenions, et si vous voulez, c'est presque, on va presque vers une situation athée, ça veut dire, où on ne mentionne plus, pas athée, mais où on ne mentionne plus Hachem. Quelque part, il va être, vous êtes fait vous-même, d'accord, avec les mitzvot, vous faites vous-même. Et vous êtes de plein pied, vous faites les choses. Vous les faites pour moi aussi. Quelque part, c'est comme si Hachem disait, moi aussi j'ai besoin qu'on s'occupe de moi, bien sûr. Hein. J'ai besoin de rien du tout, mais les choses se présentent comme ça. Quand les Bnei Israël sont sortis de Mitzrayim, en fait, normalement ils n'auraient pas dû sortir. Pour plusieurs raisons, mais entre autres, parce qu'ils n'avaient aucun mérite pour sortir. Alors Akadosh Baruch Hu leur a donné un mérite, un mini-mérite. Il leur a donné deux mitzvot. Ce n'est pas des mitzvot qu'ils ont inventées. Ce sont des mitzvot qui leur ont été données et on leur demandait seulement de faire ce qui leur a été demandé. Ce qui leur a été demandé, faites-le. Et ça suffira comme étant le mérite avec lequel Hachem va pouvoir nous sortir d'Égypte. Les deux mitzvot, vous les connaissez, c'est la mitzvah de la Mila, la circoncision, et la mitzvah du Korban Pessah, de l'agneau pascal. Ces fameuses mitzvot avec le sang, etc., pour combattre le sang de la mort, etc. On a déjà parlé de ça souvent. Mais ça, malgré le fait que les Bnei Israël ont fait ces mitzvot, quand on parle de Pessah, Pessah est toujours considéré comme ce qu'on appelle « It Aruta de Leila ». C'est l'éveil d'en haut. C'est-à-dire, à Pessah, les Bnei Israël sont passifs. On n'a rien fait. On nous a pris et puis on a sorti l'Égypte. Et même le mérite qu'on a, c'est Hachem qui nous l'a soufflé en quelque sorte. Je te donne les mitzvot qui te... Voilà, si tu fais ça, ça suffira. À partir de cette sortie d'Égypte, on a commencé à franchir des étapes. Il y a un compte de 49 étapes, 50. Donc a priori, on passe, grâce à ces 50 marches, si vous voulez, on passe de la nourriture animale, à la nourriture humaine, le blé, la nourriture de la chokhma, la sagesse. Dans la Torah, c'est pas marqué directement que c'est cette échelle, ces 50 jours en quelque sorte, vont mener à Matan Torah. Parce que Matan Torah n'est pas présenté du tout comme étant Shavuot. Un Shavuot. Pourquoi on sait que c'est un Shavuot? Parce que on nous dit quand c'est par rapport à un Pessah, si tu calcules, tu vois qu'on arrive à Shavuot. On arrive au 6 Sivan. Des pérégrinations des Bnei Israël jusqu'à ce qu'ils arrivent au Sinaï. Et Hachem avait dit, je donnerai la Torah le 6 Sivan. Alors, où est-ce qu'on sait que c'est le 6 Sivan? C'est écrit dans la Genèse. C'est écrit dans Bereshit. Quand on donne la liste des jours de la création, Il y a Yom Echad, puis après Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, Yom Chamishi, et on aurait dû dire Yom Shishi. Mais on ne dit pas Yom Shishi, on dit Yom HaShishi. Le He, c'est ce qu'on appelle le He Ayedia, c'est un He qui fait référence, il y a un autre sixième. C'est quoi? L'autre sixième, ce n'est pas un sixième jour de la semaine, mais c'est le 6 Sivan. Et alors le Midrash dit, Hachem a fait il a mis une condition avec la création. Il a dit, si les Bnei Israël, le 6 Sivan, acceptent la Torah, alors le monde que j'ai créé durera. Et s'ils n'acceptent pas la Torah, je ramène le monde au chaos initial. Donc l'acceptation de la Torah, c'est la condition de la survie du monde. Si maintenant je vous demande, est-ce que la Torah, les Bnei Israël ont reçu la Torah le 6 Sivan, vous devez répondre non. C'est non. Pourquoi ? Reprend l'histoire. Vous donnez un cadeau à quelqu'un. Prenez un objet passe-partout, en quelque sorte. Ce cadeau, puisqu'il passe partout, vous pourriez le donner comme cadeau de naissance, comme cadeau de bar mitzvah, de bat mitzvah, de mariage, d'anniversaire, de pose la crémaillère, enfin, tout ce que vous voulez. Ce même objet, cadeau, il acquiert un sens différent selon que vous le donnez à ce moment-là ou à cet autre moment. Alors, selon qu'il devient cadeau d'anniversaire, cadeau de mariage, etc., tout à coup il a une autre dimension. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le don de quelque chose, il y a deux composantes. Il y a ce qu'on donne et il y a quand on le donne. C'est-à-dire l'environnement, le moment dans lequel c'est donné, anniversaire, mariage, etc. Moshe Rabbeinu voulait que les Bnei Israël, à Matan Torah, ils ne soient pas dans la situation dans laquelle ils étaient à Pessah. Il voulait que les Bnei Israël aient fait un progrès, qu'ils soient devenus un peu plus actifs, en quelque sorte. Mais quelle activité on va avoir? C'est Matan Torah, c'est Hachem qui nous donne la Torah, nous on est là. On est à la réception, c'est tout. Et Moshe Rabbeinu, il a fait quelque chose d'énorme. C'est marqué dans la Torah que Hachem a dit aux Bnei Israël, pour recevoir la Torah, vous allez vous purifier. Hayom ou Machar. Aujourd'hui et demain. Et puis, l'après-demain, il y aura le don de la Torah. Et Moshe Rabbeinu a décidé d'ajouter un jour de purification supplémentaire. Au lieu de deux jours, Moshe Rabbeinu a décidé qu'il y aura trois jours. Ça veut dire quoi? Si Hachem a dit qu'on était pur au bout de deux jours, qu'est-ce que fait? On va être plus que pur? C'est quoi? Alors, à ça, on ne peut pas vraiment... Ce n'était pas une question de pureté. Ce que Moshe Rabbeinu veut faire en faisant cela, c'est la chose suivante. Puisque dans le don, il y a deux composantes. Donc dans le don de la Torah, il y a aussi deux composantes. Il y a la Torah qui est donnée, il y a le quand elle est donnée, le moment où elle est donnée. Sur le fait que c'est Hachem qui donne la Torah, on ne peut pas influencer, c'est la Torah. Au moment où il nous la donne, elle est entièrement à lui. Après, elle deviendra entièrement à nous, mais pour l'instant, elle est entièrement à lui. Mais par contre, nous, on peut être décisif sur le moment dans lequel elle va être donnée. Et comment? Ben justement, grâce à Moshe Rabbeinu. C'est nous qui avons décidé, nous. Moshe Rabbeinu a décidé, pour le Klal Yisrael, de dire à Hachem, non, on n'est pas très disponible le 6, le mieux pour nous, c'est mieux le 7. Donc, c'est énorme ce qu'il a fait. Mais pourquoi il l'a fait? Parce que, de cette manière-là, nous sommes à la fois du côté du don et de la réception. On est du côté du don grâce au fait que c'est nous qui avons décidé quand ça aurait lieu, et on est du côté de la réception, parce que c'est nous qui avons reçu la Torah. Et si on comprend ça comme ça, alors on comprend aussi le sens d'une formulation qui autrement apparaît comme presque incompréhensible. Dans la tfila, dans la prière, quand on parle de Pessah, on dit Pessah, Yom Chérutenu, Zman Chérutenu, le temps de notre libération. Notre libération. À Sukkot, on dit Zman Simchatenu, le temps de notre joie. Et à Shavuot, on dit Zman Matan Toratenu. Toratenu, ça va, mais Matan, c'est pas nous. Matan, ça veut dire le don. On devrait dire Zman Kabbalat Toratenu. On devrait dire le temps où nous avons reçu la Torah. D'accord? Puisque c'est par rapport à nous que ça doit se dire. Mais si maintenant on dit qu'on est nous aussi du côté du don, alors on comprend. Et non seulement on est aussi du côté du don, mais finalement on aurait pu dire Zman Matan Vekabbalat Toratenu. D'accord? Et on dit seulement Matan. Ça veut dire que même nous, la partie active, c'est de celle-là qu'on parle. D'accord? C'est le don. C'est pour ça qu'on a gardé Zman Matan Toratenu. Mais c'est comme si on est en train de dire une chose assez énorme. On est en train de dire le temps où nous nous sommes donné la Torah. Zman Matan Toratenu. C'est nous qui nous sommes donné la Torah. Ça veut dire quoi? Si on s'est donné la Torah, c'est qu'on avait déjà la Torah avant. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on avait déjà la Torah avant? On ne peut pas se donner une Torah qu'on n'a pas encore. Donc, en tout cas, ce que Moshe voulait, c'est qu'on soit de nouveau, pas à égalité, mais qu'on soit associé à Hachem dans le don de la Torah. Quelque part, ça implique que comme Hachem a la Torah pour la donner, d'une certaine manière, nous aussi on l'a d'une certaine façon pour la donner. Comment? Ben, pour l'instant, on n'entre pas là-dedans. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a reçu? Qu'est-ce qu'on s'est donné? Qu'est-ce qu'on a reçu? Matan Torah, on a reçu la Torah, c'est quoi la Torah? On ne peut pas dire que ce qu'on a reçu, c'est les mitzvot. Parce que ça, c'est pas nouveau. Des mitzvot, on avait déjà reçu à Mara. Avant d'arriver au Sinaï, il y a eu un moment où on a passé, là où les eaux étaient amères, et Moshe Rabbeinu a jeté un bâton pour adoucir l'eau, etc. Et là-bas, on a reçu la mitzvah du Shabbat, on a reçu la mitzvah de Kibbud Av Va'em, Para Aduma et d'autres. Donc des mitzvot fondamentales. Or, il n'y a pas de différence entre 10 mitzvot et 613 mitzvot. C'est jamais que quantitatif. Donc c'est pas fondamental. Donc c'est pas ça qui s'est passé à Matan Torah. Alors c'est quoi? Ce qui s'est passé, c'est notre statut qui a changé. Nous sommes devenus ce qu'on appelle Metsuvim. C'est-à-dire, nous sommes des gens qui avons des obligations. On est entré dans un dans une relation d'obligation. On a des mitzvot qui sont donnés par Hachem, qui nous donnent ces mitzvot pour que nous les fassions, et nous sommes obligés de les faire. Les avot qui ont fait les mitzvot, avant, eux, ils faisaient les mitzvot, mais ils n'étaient pas obligés de les faire. Ils n'avaient jamais reçu la Torah. Nous, maintenant, on l'a acceptée, on l'a reçue. Je n'entre pas dans le problème qu'on l'a reçue, on entre sous la contrainte, mais qu'on a dû la recevoir à pourri, mais bon, peu importe. Donc la Torah, Matan Torah, ça veut dire l'Evné Israël change de statut. Comment ça se dit en français, changer de statut? Ça se dit conversion. On s'est converti. Les Bnei Israël se sont convertis. Tout le monde s'est converti, mon cher Rabbeinu. Tout le monde, au Sinaï, c'est une grande conversion de tout le monde. Et non seulement c'est une conversion, mais c'est le modèle de la conversion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, quand quelqu'un se convertit, on utilise les mêmes trois, enfin pour les hommes et deux choses pour les femmes, que eux. D'accord ? Les hommes ont fait la Mila, ils se sont immergés dans un mikvé, ils ont accepté les mitzvot. Les femmes se sont immergées dans un mikvé, elles ont accepté les mitzvot. Tout le monde a accepté. C'est-à-dire qu'en fait, ce clan d'Israël, il est très étrange. Si vous voulez, on est sorti d'Égypte, on était une espèce d'amas de personnes, on est devenu quasiment un peuple au pied du Sinaï, mais on est devenu le peuple d'Israël par conversion. Et à ce moment-là, on a reçu la Torah. Et on s'est donné la Torah. Et une petite parenthèse. Le clan, enfin, nous on lit Bereshit bara Elohim et on dit Bereshit bishvil Israël shenikraim Reshit. Le monde a été créé pour Israël qui est appelé Reshit. Israël est présenté comme un commencement. Quel commencement? Israël, c'est quoi? Israël, c'est le nom de Yaakov Avinu. D'accord. Entre Adam Arishon et Abraham, il y a 20 générations. Donc ça fait 22 générations, 3 générations, jusqu'au Bnei Israël. Ce peuple d'Israël, il arrive, mais tout existe déjà. Les peuples, ils sont déjà là. Les territoires sont déjà là. Et les Israël, ils n'ont pas de territoire. Hachem promet à Abraham Avinu, je te donnerai la terre. Vous connaissez la terre d'Abraham, vous? Je ne la connais pas. Elle s'appelle comment, la terre d'Abraham? Elle s'appelle Eretz Kenan. Dans toute la Torah, cette terre qui appartient, qui a été donnée au Bnei Israël, ne s'appelle jamais Eretz Israël. Elle s'appelle Eretz Kenan. Kenan, on sait qui c'est. Kenan, c'est un des petits fils de Noir. Bon, c'est un fils de Ham. C'est celui qui a dénoncé Noir dans l'histoire de la beuverie, enfin, etc. La terre est présentée comme la terre de Kenan. On ne dit jamais que c'est la terre d'Israël. Hachem donne la terre à Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'il en fait? Il dit à Ephron, il dit, écoute, moi, Ger Betoshav Anochi, je suis étranger, résident avec vous. Ça veut dire, je veux bien que la terre, que vous disiez que c'est votre terre. Je veux bien même payer pour acheter le caveau de pour ma femme, puis ensuite, je paye pour une terre qui m'appartient. Elle est à moi, cette terre. Alors, si vous me laissez faire ce que j'ai à faire sur cette terre, ça ne me dérange pas que vous mettiez votre drapeau, que vous appelez ça Eretz, ce que vous voulez. Je n'en ai rien à faire. Moi, ce que je veux, c'est faire ce que j'ai à faire sur cette terre, les mitzvot que je veux faire. Je veux les faire. Si vous me laissez faire, que vous s'appelle X, Y ou Z, je n'en ai rien à faire. Par contre, si vous ne me laissez pas faire, alors Toshav, alors voilà, je la prends la terre. Je vous fais la guerre et je prends la terre. Parce qu'elle est à moi. Donc on voit très bien que Abraham Avinu l'a compris, que la possession de la terre, ce n'est pas du tout au sens où les goyim pensent posséder la terre. C'est notre terre, c'est pas. Ok, mais c'est presque dans la terre, dans la tête qu'on a la terre. Bon, bien sûr, les Israélites vont aller faire des conquêtes après. Mais c'est sûr que c'est bien, il faut bien habiter cette terre pour faire les mitzvot, etc. Mais ce peuple d'Israël, il est quand même étrange parce qu'il est obligé, pour exister, il est obligé de prendre la place de quelqu'un. Parce que quand il arrive, les places sont distribuées déjà. Le paradoxe, c'est qu'on appelle ça Réchit. Il est premier. Premier de quoi? Ensuite, ça va encore un peu plus loin. Quand Hachem dit à Moshe Rabbeinu d'aller sortir les Bnei Israël d'Égypte. Ça veut dire, Moshe Rabbeinu ne voulait pas y aller parce qu'il ne voulait pas empiéter sur les plates-bandes de son frère Aaron, etc. Mais Hachem a dit, tu vas aller dire à Paro, let my people go. Et c'était peut-être pas en anglais, hein, je sais pas. Et dis-lui que s'il ne laisse pas mon peuple, il ne libère pas mon peuple, Israël c'est mon peuple, mon premier-né. Israël, Beni Bechori Israël. Israël c'est mon fils premier-né. S'il ne laisse pas, je tuerai son premier-né. Et c'est finalement ce qui s'est passé ultimement. Mais ça avait été déjà dit à Paro avant même les Makot. Mais on ne fait pas très attention, mais dire que Klal Israël, Beni Bechori Israël, c'est énorme, non? On est en train de dire que quoi? Que Israël, c'est le fils de Dieu. Beni, c'est même son premier-né. Israël est le premier-né, c'est le fils de Dieu. Il y a une Gemara qui dit que dans le palais d'Hachem, il y a deux sièges, deux fauteuils. Alors la Gemara, elle discute, ça veut dire deux, c'est pour qui le deuxième? Alors on dit, non, mais c'est pas vraiment un fauteuil, c'est un repose-pied. Moi, c'est un fauteuil et un repose-pied. Arrive Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit, pas du tout. Il y a deux fauteuils, bien sûr. Un fauteuil, c'est pour Hachem, et l'autre, c'est pour le Mashiach. Quand Rabbi Akiva parle, on est au tout début du christianisme. Il est en train de dire qu'il y a un fauteuil pour le Mashiach. Alors, on va en terminer avec cette affaire d'abord. Les collègues de Rabbi Akiva, ils lui disent, Akiva, tu devrais plutôt aller t'occuper de Negaïm vers Aolot. Occupe-toi plutôt des halachot concernant la lèpre et les problèmes de Toumat Met, etc., qui sont des halachot extrêmement compliqués. Là-bas, c'est ton domaine. Mais ne dis rien dans les problèmes d'agadot avec des histoires de... Quand on lit les commentateurs, on a l'impression qu'ils pensent que Rabbi Akiva n'est pas bon dans ce domaine. Et que ses collègues lui disent, écoute, tu n'es pas bon dans ce domaine, tu es très bon dans le domaine de Gaïm Vaholot, et donc va enseigner à ce niveau-là, mais ne te mêle pas de ces questions-là. Mais franchement, moi j'ai un préjugé favorable au Rabbi Akiva, qui n'en a pas besoin d'ailleurs, mais et je ne pense pas que Rabbi Akiva est mauvais dans ce domaine. Je pense que ce qu'ils lui ont dit, c'est la chose suivante. Toi, Rabbi Akiva, tu dis des choses qui sont extrêmement subtiles. Tellement subtiles qu'elles ne peuvent pas être entendues par tout le monde. Si tu vas développer tes idées extraordinaires, subtiles, etc., il faut n'oublier pas que tout ce qu'on a de Torah, c'est à l'ibé de Rabbi Akiva. D'accord ? Toutes les Mishnayot, c'est-à-dire toute la Torah chez Balpé, d'accord, et pas seulement Sifri, Sifra, et tout, c'est par des élèves de Rabbi Akiva, d'après Rabbi Akiva. D'accord, il ne faut pas oublier, c'est Rabbi Akiva. Alors, tes subtilités, si tu les fais, tu les développes dans des sujets comme Negaïm, Aholot, les personnes qui sont capables de te suivre, là, elles sont très peu nombreuses, et elles ne risquent pas de se fourvoyer, même si elles ne comprennent pas vraiment complètement tout ce que tu dis, ça ne va pas porter à conséquence, parce que, Mais par contre, si tu dis des choses pareilles, à la naissance du christianisme, dire qu'il y a un siège pour le Messie, le commun des mortels, c'est insupportable. Ils ne peuvent pas raconter une chose pareille. Ce que je pense, c'est vrai que le siège il est pour le Mashiach. Mais seulement on ne peut pas le dire. Parce que pour comprendre ce que veut dire un siège pour le Mashiach, il faut être Rabbi Akiva. Alors, avec ce que je dis, il y a aussi une forme de critique sur Rabbi Akiva. Eux, ils disent, tu n'es pas bon dans ce domaine, va ailleurs. D'après ce que je dis, ce n'est pas qu'il n'est pas bon. C'est qu'il y a un problème, c'est que on verra après comment il faut le dire, je vais le dire mal d'abord, c'est que Rabbi Akiva, semble-t-il, il ne peut pas penser que les gens ne vont pas comprendre ce qu'il dit. C'est un défaut, ça fait aucun doute. C'est-à-dire, il dit des choses trop difficiles et il n'arrive pas à penser que les gens ne comprennent pas. Alors, est-ce que c'est par anava, est-ce que c'est par modestie, enfin, je ne sais pas. Mais si on dit qu'effectivement, Rabbi Akiva, il ne se rend pas compte, d'une certaine manière, que les gens ne comprennent pas. J'ai appris de mon maître que de la même manière qu'il n'y a pas de limite dans la compréhension, il n'y a pas non plus de limite dans la non-compréhension. Il m'a dit que c'est comme ça. Donc, on peut ne pas comprendre que quelqu'un ne comprenne pas. Vous avez compris quelque chose, vous lui expliquez, votre voisin, il ne comprend pas. Et souvent, on ne comprend pas. Comment tu peux ne pas comprendre ce que je t'ai expliqué là? Alors, si on dit comme ça, alors on peut éventuellement comprendre, répondre à une question. La question, c'est la question classique. Quand Rabbi Akiva a vu que ses élèves commençaient à mourir, parce qu'ils ne se sont pas donnés du kavod, comme on explique après coup, comment se fait-il qu'il n'ait pas réagi? Ils ne sont pas morts le même jour. Quand il en a vu 5, 10, 15 qui meurent, d'accord? Il aurait dû réagir. Il aurait dû leur dire, à Botan, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris de mon enseignement, ou, etc. Il ne bouge pas. Si on dit que Rabbi Akiva ne comprend pas qu'on puisse ne pas comprendre, alors c'est pour ça qu'il n'a pas bougé. Parce qu'il ne comprend pas qu'il ne comprenne pas. La question de savoir pourquoi il n'a pas bougé, je vous ai dit, elle est déjà liée aussi, on a presque la même question sur Abraham et Sarah. Abraham et Sarah, ils ont fait une fachot asher asu b'charan. À Charan, ils ont fait plein de prosélytes, comme on dit. Aujourd'hui, ça voudrait dire qu'ils ont converti plein de monde. Donc, ils sont entourés de plein de monde. Leur fils, Yitzhak, il est tout seul. Bon. Vous avez entendu parler d'une équipe de foot? Il n'a personne avec qui jouer au foot, Yitzhak Rabin. Il n'y a personne. Où ils ont passé ces gens? Ils ont eu des enfants quand même, non? Où ils ont passé leurs enfants? Alors, il y avait un midrash, enfin, il y a toujours un midrash à ce sujet-là, qui dit que tous les convertis d'Abraham se sont appelés Abraham, et tous les convertis, eux, se sont appelés Sarah. Moi, j'avais expliqué ce midrash en disant, je vous explique la terminologie, moi, il me semble que les gens, ils ont fusionné avec Abraham et Sarah. Ça veut dire qu'ils les ont pris comme modèle et ils ont copié les modèles. Et quand on copie, alors, et si vous voulez, si on fusionne, il n'y a pas d'enseignement qui passe. Il faut de l'espace pour enseigner. Et la copie n'est jamais la bonne façon d'apprendre. Parce que tu oublies la distance qu'il y a entre un maître et un élève, si tu copies. Souvent, les gens, par exemple, qui font tchouva tard, qui font tchouva, ou des gens qui se convertissent, ils se mettent tout de suite à faire des khumrot, des trucs, c'est la vérité. Parce que leurs maîtres en font. Les maîtres doivent leur dire, mais tu n'as pas le droit. Parce que ce n'est pas toi. Toi, tu dois faire ce à quoi tu es astreint. Quand tu auras bien fait ça, et si tu en as envie, si ça te dit, si tu sais exactement à quoi ça correspond, alors tu feras les promenades que tu veux faire. Mais on ne peut pas commencer comme ça. On ne peut pas commencer par la copie. Parce que ce n'est pas toi. Donc ces gens qui ont copié, ils n'existaient plus. Donc leurs enfants, c'est pas qu'ils n'avaient pas d'enfants, ils avaient des enfants, mais les enfants n'avaient pas de parents. Ils n'avaient plus de parents. Donc si ça se trouve, ils sont repartis dans l'idolâtrie, où là-bas, ils existaient. Donc là aussi, la question se pose. Pourquoi Abraham ne leur a pas dit? Pourquoi il ne leur a pas dit qu'ils étaient en train de se fourvoyer? C'est important, non? Là aussi, probablement que... on ne pouvait rien dire, peut-être, parce que ça ne pouvait pas passer pour une raison... Bon, je ne suis pas encore très clair dans cette histoire de savoir pourquoi ils ne pouvaient pas le dire. Pourquoi ils ne l'ont pas dit. Ce qu'on voit, chez Abraham, on ne voit pas. Mais chez Rabbi Akiva, on voit que quand ils sont tous morts, Rabbi Akiva, il est allé dans le sud et il a pris 5 élèves, dans lesquels il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yehuda, etc. Et toute la Torah que nous avons, elle vient de ces élèves de Rabbi Akiva, comme je vous ai dit, d'après Rabbi Akiva. Tout. Alors on peut regarder que c'est plus des pères. On peut regarder que c'est un nombre impair. Pas un nombre pair. On peut dire toutes sortes de choses. Et puis c'est beaucoup plus petit. Parce que peut-être la grande faute, c'est que dans le grand nombre, on ne peut pas s'occuper des gens. C'est pas 24 000 élèves. Qui peut s'occuper de 24 000 élèves? Mais probablement que Rabbi Akiva pensait qu'il n'avait pas besoin de s'occuper d'eux directement. Ces gens-là, c'était la crème de la crème. Ils sont déjà formés, c'est pas... Ils n'étaient pas en yeshiva ktana. C'était l'institut des hautes études Mishnaïe qui est talmudique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de... La grande différence entre le Messie version chrétienne et le Mashiach, disons, dans la version juive, le Fils de Dieu, finalement, c'est que chez nous, c'est tout le Klal qui est. C'est le Klal Israël qui est le Fils d'Hachem. C'est pas un individu. C'est toute la différence. Ah, vous me direz pourquoi il y avait un seul siège. Il y a un roi dans le clan d'Israël. Mais le roi, il n'est roi que si le peuple le soutient. Chez nous, le roi, il n'est roi que si le peuple est d'accord. Le roi David, quand son fils Absalom s'est révolté contre lui, et que la majorité du peuple a suivi Absalom, David n'était plus roi. Il est redevenu roi quand Absalom est mort. Absalom est resté... Il est mort. Et à ce moment-là, David est de nouveau roi. Mais pendant la période où Absalom se considérait comme roi, David ne l'était pas. Ça veut dire que s'il avait fait une faute, David aurait apporté des corbanotes que monsieur tout le monde, et pas des corbanotes que pour le nasi ou pour le roi, etc. Et quand le fils de Shlomo HaMelech n'a pas écouté les Chachamim, on lui a pris son royaume, quasiment la quasi-totalité de son royaume. Ils lui ont dit que les impôts de Shlomo étaient beaucoup trop lourds. Il a dit, moi j'en ferai un des encore plus lourds. Il a dit, ok, tu feras ça tout seul. Et donc, finalement, si j'essaie de regarder ce qu'on sait de Shavuot, c'est ça. Shavuot, c'est le moment où le clan d'Israël a changé de statut, c'est le moment de la conversion, d'un clan d'Israël qui est devenu Metsouvé. C'est ça le grand changement. Alors, on a aussi reçu tout plein de mitzvot, mais c'est pas ça la nouveauté, finalement. Et alors maintenant, on peut dire qu'on s'est préparé. On va dire que Matan Torah a été précédé par les jours de préparation, les 49-50 jours. Et ça, c'est comme ça fantaisiste, mais c'est marqué qu'on comptera 7 fois 7 jours, donc 7 semaines. Après, c'est marqué 50 jours. De savoir. 7 fois 7, jusqu'à présent, ça ne fait pas 50. Maintenant, si on dit que on devait faire 7 fois 7, et après venait Matan Torah, ou Shavuot, Matan Torah, disons. Bon, c'est bien. Mais ça, c'était le projet initial d'Hachem. Mais avec Moshe Rabbeinu, on n'a pas compté le 50e, mais quelque part, Matan Torah, ce sera le 51e jour, pas le 50e. Donc il y a à la fois les deux. On te parle à la fois de 7 fois 7, et puis aussi 50. 7 fois 7, c'est Matan Torah version initiale 6 Sivan, et 50, c'est une espèce de Matan Torah qui aura lieu au 51e. Version, mon cher Rabbeinu. Bon, voilà, on va s'arrêter là. Je vais te dire, c'est trop. Merci.